Bien. Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation de parler à cet auditoire éclairé. Donc, je parlerai d'incertitude et de modélisation intégrée. Je suis donc professeur honoraire, comme on dit chez nous, c'est-à-dire émérite dans d'autres de l'Université de Genève. Et j'anime une société de conseil et de recherche appliquée qui s'appelle ORDEXIS, qui veut dire Operations Research Decision and Systems. Donc je parlerai de quelques résultats d'expérience basés sur la programmation stochastique et l'optimisation robuste pour prendre en compte l'incertitude dans des modèles d'évaluation intégrée de politique climatique. Les modèles d'évaluation intégrée sur lesquels je m'appuierai, vous pouvez les voir en allant sur le site qui est indiqué ici, qui correspond à un des projets soutenus par le GICC, et où nous présentons en fait trois modèles. Un modèle de climat de complexité intermédiaire qui permet de réaliser assez rapidement des scénarios de l'évolution du climat. Un modèle macroéconomique mondial qui est basé sur les paradigmes d'équilibre général économique calculable, et un modèle mondial aussi d'évolution des technologies énergétiques et des échanges d'énergie entre les différentes régions du monde, qui est le modèle TIAM. Donc il y a le modèle Gemini E3 qui est un modèle macroéconomique, TIAM qui est un modèle d'énergie, et un modèle qui s'appelle GENI qui est un modèle de climat. Donc c'est sur ce site on voit ces modèles, et quand on considère ces modèles donc d'évaluation intégrée, ce sont des modèles qui servent à définir finalement des politiques climatiques à long terme. Donc ce sont des modèles dynamiques. En général, c'est des modèles où on essaye aussi de voir le tempo des mesures à prendre, c'est-à-dire à quel moment décider, à quel moment changer de technologie, d'investir, etc. Et donc ces modèles sont susceptibles, dans un environnement incertain, d'être traités par des techniques héritées de la théorie de la décision dont M. Parent parlait ce matin. Et théoriquement, en fait, la façon d'attaquer l'incertain dans ces types de modèles, c'est de passer par ce qu'on appelle la programmation dynamique stochastique ou le contrôle stochastique, qui sont la façon de transcrire dans ces modèles dynamiques les idées de théorie de la décision qui étaient exprimées ce matin. On peut aussi, si on veut éviter les questions de probabilité, parce qu'elles sont trop difficiles à manier, essayer de passer par ce qu'on appelle le pilotage ou la commande robuste, ou une version qu'on appelle maintenant les méthodes de viabilité, qui est une version à l'heure actuelle développée en particulier par notre collègue Jean-Pierre Robin pour les systèmes dynamiques. Et ça permet de piloter, c'est ainsi, des systèmes dynamiques dans l'incertain. Le problème, c'est qu'on se heurte très rapidement à ce qu'on appelle la malédiction de la dimension, c'est-à-dire que les méthodes basées sur la programmation dynamique stochastique ou même sur le contrôle robuste sont très vite inefficaces quand on a des systèmes qui ont plus que 5 variables d'état prenant des valeurs dans les réels, donc qui ont des variables d'état dans R5, eh bien on est à la limite de ce qui est faisable numériquement. Donc quand vous prenez n'importe quel modèle, que ce soit un modèle climatique ou un modèle économique, vous avez plus que 5 variables d'état, vous avez plusieurs milliers de variables d'état, donc il faut oublier cela. Alors, comment est-ce que l'on peut s'en sortir? Eh bien, la façon de s'en sortir, ça a toujours été finalement de combiner d'une certaine façon simulation et optimisation, et de créer ce qu'on appelle des métamodèles, c'est-à-dire que l'on va faire un modèle sur le modèle qui va être construit par éventuellement émulation statistique, en prenant le modèle numérique comme étant la base qui représentera, si vous voulez, d'une certaine façon la nature, sur laquelle on plaquera éventuellement un métamodèle, et on fera donc des simulations par éventuellement échantillonnage et par ce qu'on appelle émulation statistique pour obtenir ce métamodèle. Et sur ce métamodèle de dimension beaucoup plus réduite, on pourra effectivement appliquer nos méthodes d'optimisation stochastique. C'est une méthode. Il y en a une autre dont je parlerai dans 5 minutes et sur laquelle j'insisterai, qui consiste aussi à rester dans le contexte de ce qu'on appelle la programmation linéaire, qui est en fait une technique d'optimisation qui est très puissante et qui va nous permettre éventuellement d'attaquer directement l'incertain en utilisant ce qu'on appelle soit l'optimisation robuste, soit la programmation stochastique. C'est ce que je développerai. Donc, dans les exemples récents de choses auxquelles je contribuais d'ailleurs, par exemple en commande stochastique avec des collègues au Canada, on a considéré un modèle tiré de ce modèle d'évaluation intégrée de Nordhaus, par exemple, en le rendant stochastique en analysant à ce moment-là les problèmes de ce qu'on appelle en anglais le timing des politiques, c'est-à-dire le tempo, à quel moment est-ce qu'il faut, par exemple, investir dans des nouvelles technologies, sachant que les nouvelles technologies ne sont pas encore disponibles et qu'il faut d'abord investir dans la recherche avant d'avoir les nouvelles technologies. Alors on arrive à faire un modèle qui finalement a moins de 5 variables d'état et on arrive à faire finalement de la programmation dynamique et trouver quelque chose pour ce type de modèle. S'il s'agit de combiner simulation et optimisation, dans un numéro récent de Environmental Modeling and Assessment, on a montré comment faire par exemple une combinaison d'un TIAM, ce grand modèle énergétique en programmation stochastique, et de Gemini 3, qui est un modèle macroéconomique mondial, en mode simulation Monte Carlo, et un petit peu à la manière des spécialistes du climat, c'est-à-dire en faisant des ensembles de simulations, et comment combiner les deux pour avoir ainsi une évaluation des futurs incertains pour les politiques climatique. Et dans la métamodélisation, un article récent qui est paru dans la revue canadienne de recherche opérationnelle, INFOR, où en partant du modèle Gemini 3, on s'est intéressé à faire un modèle concernant la réaction de l'OPEP à une politique climatique. Donc on fait un métamodèle qui concerne spécifiquement la réaction de l'OPEP à un climat. Et le modèle Gemini d'équilibre mondial sert à décrire les fonctions, les lois de demande et les différentes fonctions de réaction qui entrent dans ce modèle de l'OPEP. Tant qu'on reste dans le domaine propre à la programmation linéaire, comme je disais tout à l'heure, les méthodes d'optimisation robuste, qu'on appellera OR, et de programmation stochastique, peuvent s'associer pour traiter efficacement de l'incertitude. Alors, ça veut dire que, effectivement, si on reste dans la programmation linéaire, on peut traiter des problèmes de très grande dimension et on peut éventuellement introduire suffisamment de flexibilité pour traiter de l'incertitude. Nous avons un projet en cours qui est soutenu par le GICC qui s'appelle ETEM-AR. AR, c'est pour adaptation et robustesse, et qui s'attaque à une étude de cas en Midi-Pyrénées et qui a pour but de fournir une démonstration de l'à-propos de ces méthodes. Voilà le site où nous commençons à mettre le détail de ce projet. Et on va modéliser l'atténuation et l'adaptation dans un plan climat territorial, mais en se focalisant sur le système énergétique. Donc comment ça, on va adapter d'une certaine façon l'ensemble du système énergétique régional. Il y a beaucoup de sources d'incertitude là-dedans. Alors par exemple, les demandes utiles, c'est-à-dire les demandes en prestations énergétiques, peuvent varier considérablement. Il peut y avoir des grandes demandes, des variations de demandes importantes du fait de variations dans demande de climatisation, demande d'électricité du fait, par exemple, de l'évolution pénétration des voitures électriques, par exemple, qui peut changer complètement la demande électrique. L'efficacité des technologies peut changer, l'hydraulicité peut changer, beaucoup d'unités de production dépendent finalement de l'eau, de la présence en eau. Le développement des éoliennes dépend évidemment de l'évolution aussi des vents, etc., etc. Les coûts des technologies sont incertains, le prix des sources est incertain. On peut avoir aussi des développements importants de nouvelles sources énergétiques comme la biomasse, puisque des technologies intéressantes pour le futur, ça peut être production d'électricité à partir de biomasse avec éventuellement capture du carbone. Donc il y a des grandes incertitudes partout. Le modèle lui-même est un modèle dynamique d'expansion de capacité, hein. C'est-à-dire qu'on peut investir et on regarde à quel rythme il faut investir. On prend en compte les coûts systémiques, c'est-à-dire tous les coûts d'investissement, de fonctionnement et de maintenance. Et on prend en compte évidemment les effets de filière. Donc on a toute la hiérarchie dans les productions et les consommations d'énergie. On considère l'ensemble des secteurs énergétiques et leur interaction avec éventuellement même d'autres secteurs, comme par exemple le secteur agricole qui peut avoir à s'adapter, qui peut avoir à fournir beaucoup plus de biomasse comme source d'énergie. On peut prendre en compte l'évolution des demandes, comme je l'ai dit. La structure, c'est un programme linéaire dynamique, c'est-à-dire que vous avez des contraintes qui représentent l'évolution des capacités de production. Donc, à travers un processus d'investissement. Et on va utiliser une idée là qui s'appelle la programmation stochastique pour tenir compte d'incertitudes qui se présentent sous forme de processus aléatoires. Alors, sous forme de processus aléatoires, c'est-à-dire par exemple comme des chaînes de Markov, ou donc des évolutions qui sont à la fois dynamiques et aléatoires. Et on utilisera l'optimisation robuste pour tenir compte d'incertitudes plus structurelles. Alors, je vais revenir là-dessus, mais d'où viennent les incertitudes ? Donc, fondamentalement, on part de risques climatiques, on a déjà vu ça en détail bientôt, tout à l'heure. On va avoir éventuellement des évaluations globales qu'il faudra éventuellement ramener à un niveau local. On aura des évaluations, donc à la fois des évolutions en moyenne, éventuellement des informations sur l'incertitude en termes d'écart type. Et nous, il va falloir éventuellement voir en quoi cela impacte le système énergétique. Alors ici, on a par exemple les unités de production exposées à des risques climatiques représentées sur cette carte. Donc on a les unités éoliennes, les unités hydro, la centrale nucléaire qui est... Toutes ces unités sont exposées finalement à des variations dues au climat. Le passage de l'incertitude initiale climatique à éventuellement l'incertitude qui va se refléter sur des paramètres du modèle est un processus assez complexe qui peut être facilité par l'utilisation de systèmes d'information géographique. On a vu juste maintenant beaucoup de choses intéressantes sur l'hydraulicité. Et donc, finalement, on obtient une indication de l'incertitude sur un certain nombre de paramètres, mais on voit bien que, finalement, on n'a pas du tout une information précise sur des lois de probabilité. Parce que, déjà, depuis le début, c'est assez flou, et par le passage de plusieurs moulinettes, si vous voulez, pour avoir, finalement, l'incertitude sur les paramètres, on va avoir... une idée que certains paramètres sont incertains, mais de là avoir une idée précise de la distribution de probabilité de ces incertitudes, il ne faut pas espérer l'avoir, mais ça c'est clair. Donc, en définitive, il va falloir utiliser cette incertitude dans le modèle, et on va le faire de deux façons. C'est-à-dire qu'on aura une adaptation qui pourra être, ce que j'appelle, réactive, c'est-à-dire qu'on veut avoir des mesures qui sont contingentes, adapté à la réalisation d'un processus aléatoire qui va décrire l'évolution à laquelle nous devons nous adapter et du contexte climatique et économique. Et ça, c'est ce qu'on va traiter par ce qu'on appelle la programmation stochastique, c'est-à-dire que l'on va indexer des décisions sur ce qu'on appelle des nœuds d'événements, dans un arbre d'événements qui représentera ces évolutions possibles. Et donc, on pourra représenter ainsi ce qu'on appelle l'adaptation réactive. Et puis, il y aura une adaptation qu'on pourrait appeler proactive, qui sont des mesures structurelles qui sont propres à rendre le système plus robuste tout de suite face aux incertitudes affectant un ensemble de paramètres. Et c'est là qu'on utilisera l'optimisation robuste. En particulier, dans les mesures proactives, il y a peut-être des mesures à prendre immédiatement en tenant compte du fait que l'on pourra s'adapter plus tard. Donc, c'est des mesures à prendre en première période, considérant qu'on pourra ensuite s'adapter. Et là aussi, on peut essayer d'être robuste à ce niveau-là, savoir quelles sont les premières mesures à prendre et ces premières mesures à prendre, les prendre de telle façon qu'elles puissent être bonnes pour de nombreux scénarios possibles. Donc la capacité d'adaptation est finalement représentée par la définition de politique de couverture du risque. Et c'est en fait ces deux mesures proactives, réactives, c'est en fait des façons de pouvoir se couvrir face au risque. Bien, je ne pourrais pas aller plus loin sur l'application Midi-Pyrénées parce qu'elle est en cours et je ne voudrais pas présenter des résultats trop parcellaires. Donc, je vais maintenant illustrer ces deux aspects, programmation stochastique et optimisation robuste, sur d'autres études que nous avons réalisées récemment. Ici, nous avons fait récemment une étude sur le canton de Genève pour essayer de voir l'impact des développements des réseaux intelligents et des énergies renouvelables sur le système énergétique cantonal. Donc, c'est un article qui paraîtra dans ce journal suisse. Et donc, le futur des voitures électriques hybrides rechargeables est important parce que c'est un type de technologie très, très, très intéressant puisque pour la première fois on va coupler d'une certaine façon des technologies de transport et des technologies de production ou de stockage de l'électricité, et donc ça devient très, très attrayant, et la voiture électrique rechargeable se couple parfaitement avec les éoliennes par exemple puisqu'elle permet de faire le stockage temporaire d'une électricité intermittente provenant des éoliennes. Donc c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant à voir dans le futur. Ce n'est pas d'ailleurs la seule technologie de stockage intermittent, mais l'intérêt c'est que c'est une technologie qui est aussi une technologie de transport. Et par exemple ici, donc, on a essayé de prendre en compte une certaine partie de l'incertitude en disant on a un arbre d'événements qui nous dit en 2025, on peut bifurquer vers 4 scénarios possibles concernant le prix de l'électricité et la pénétration des voitures électriques. Et donc on peut avoir le niveau de pénétration de ces voitures sur les marchés qui ne dépend pas uniquement évidemment de ce qui se passe dans le canton de Genève. Pas cette ambition-là d'avoir. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut être placé devant donc, cette incertitude. Donc, voici le plus simplement possible ce qu'est un arbre d'événements. Et évidemment, à partir de ce moment-là, on va avoir des politiques contingentes, c'est-à-dire suivant la réalisation d'un événement ou d'un autre, il y aura une politique ou une autre, en fait, d'utilisation de ces voitures électriques dans la région concernée. Et on peut voir ici, par exemple, que le prix de l'électricité n'est pas quelque chose qui va vraiment influer beaucoup sur l'utilisation des voitures. C'est plus la disponibilité vraiment qui joue. C'est un résultat que l'on obtient de cela. Cette façon de pouvoir s'adapter à des aléas, c'est ce qu'on appelle aussi des recours. On a des recours, donc la possibilité de s'adapter et de prendre des décisions qui sont positives pour nous. Donc, si maintenant on a un processus plus compliqué que juste un seul point de décision, si on a en fait des arbres d'événements multistages, j'appelle, qui sont en fait des représentations de réalisation de processus stochastiques, alors là, ça devient beaucoup plus délicat. Parce qu'on risque d'avoir une explosion de la dimension du problème déterministe équivalent qui nous sert à trouver les solutions. Et il y a différentes méthodes d'approximation pour approcher ce problème. Et en fait, il y a une façon intéressante et astucieuse de procéder qui consiste à utiliser des règles de décision qu'on appelle en fait même plus précisément des règles de décision affines qui représentent les recours en termes de fonctions affines ou linéaires des aléas. Et cette façon de procéder permet de réduire considérablement la complexité du problème et permet effectivement de traiter des problèmes d'assez grande dimension. Maintenant, l'optimisation robuste, je vais l'illustrer sur une autre application qui consiste ici à utiliser ce très très gros modèle TIAM, qui est un modèle d'énergie mondiale qui a plusieurs centaines de milliers de variables et d'équations, qui a 16 régions dans le monde, un modèle très riche en technologie. Il dispose d'un module climatique qui permet éventuellement donc de combiner à la fois les politiques énergétiques et leurs conséquences éventuelles sur le climat. Et le modèle est, ici donne une idée de la complexité du modèle, puisque tous les secteurs énergétiques sont pris en compte, tous les types d'émissions sont pris en compte, et tous les échanges, hein, c'est tous les commerces énergétiques sont pris en compte. Le problème étudié, c'est le problème de la sécurité des approvisionnements énergétiques pour l'Union européenne. Donc c'était un projet européen qui concernait la société Canlo. Et donc l'Union européenne importe plusieurs formes d'énergie de différentes régions dans le monde. Certains de ces canaux, qu'on appellera aussi corridors d'importation, sont incertains et pourraient s'avérer moins disponibles dans le futur. Alors question, proposer une politique énergétique à long terme qui soit robuste par rapport à la disponibilité des divers corridors. Voici une représentation des échanges entre l'Union européenne et le reste du monde en ce qui concerne le gaz. Donc le modèle concerne aussi autre chose que le gaz. On voit donc évidemment qu'il y a des canaux de très grande importance, d'autres de moindre importance. Et la façon de représenter ça donc a été de prendre dans ce modèle mondial l'Union européenne comme une seule région par rapport, il y en a 15 autres dans le modèle. Il y a 67 corridors d'approvisionnement dans le modèle. Chaque corridor est décrit par une technologie qui a une capacité et une activité. Capacité, donc c'est la quantité d'énergie qui peut transiter par ce canal, et la capacité c'est la quantité réel qui transite. Et donc il y a une relation entre la capacité et l'activité qui est écrite ici. Je ne sais pas si je vais avoir. Oui, hop, voilà. Et on dit l'activité est inférieure ou égale à la capacité que multiplie un facteur de disponibilité. Donc le canal est disponible ou pas à une certaine proportion de disponibilité. Pour rendre le modèle robuste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ce facteur de disponibilité est incertain. Et comme au lieu de mettre une incertitude uniquement sur chaque canal séparément, on va mettre plus largement une incertitude sur la somme de tous les canaux. En disant, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelque chose qui soit robuste, c'est-à-dire qui puisse s'ajuster à beaucoup de situations diverses. Donc il suffit ici tout simplement de rentrer une contrainte où on dit la somme pour tous les canaux des activités doit être inférieure à la somme des capacités multipliées par leur facteur de disponibilité. On fait intervenir ici maintenant des variables aléatoires qui sont distribuées entre 0 et 1, et DK qui est la mesure de la sévérité du risque. D'accord ? Voilà. Et donc la variable aléatoire va nous dire éventuellement quel est le. Enfin, va faire une réalisation donc aléatoire, comme son nom l'indique, et ici on verra que suivant le canal, c'est plus ou moins risqué. Et on a des variables aléatoires indépendantes de moyenne mu. Et le 1 moins dk1, c'est l'étendue de l'incertitude concernant le facteur de disponibilité AFK. Donc un petit dk signifie que le corridor a peu de variabilité. Une forte dk égale 1, ça veut dire qu'il y a une possibilité de complète disparition du corridor. Voici. Ceci maintenant est une contrainte qu'on a introduite dans le modèle qui devient une contrainte aléatoire. C'est ce qu'on appelle, en fait, si on continuait sur cette ligne, on aurait ce qu'on appelle un modèle qui s'appelle Chance Constraint Programming. Problème très difficile à résoudre. L'idée est de dire, en fait, on va faire une approximation polyédrale d'un ensemble d'incertitudes qui ressemble un petit peu à un intervalle de confiance ou une région de confiance, comme on a dit tout à l'heure. Et on fait une approximation polyédrale extérieure, ça veut dire les schématiser ici. Et si on fait ça, et si on remplace notre contrainte stochastique qui est ici, par cet ensemble de contraintes qui font intervenir des nouvelles variables qu'on appelle ici UK et V, et qui satisfont ces contraintes, donc on a des contraintes additionnelles, alors on obtient ici ce qu'on appelle la contrepartie robuste de la contrainte aléatoire. Cette contrepartie robuste, elle est entièrement écrite en termes de variables qui entrent de façon linéaire dans des contraintes. Donc on reste dans le cadre de la programmation linéaire. Et le résultat extraordinaire, c'est que la solution de ce système-là satisfait cette contrainte en probabilité au moins 1 moins epsilon, quelle que soit la distribution de probabilité sur xi, pourvu qu'elle ait l'espérance mathématique mu. Donc ça veut dire que vous avez là un résultat avec du genre de l'inégalité de Chebyshev, hein, donc c'est un petit peu ce genre-là, mais donc vous avez quelque chose qui en fait, c'est là où on voit la robustesse, vous n'avez absolument pas besoin d'imaginer quelle est la loi de probabilité que vous mettez sur ces perturbations. Alors si vous faites ça pour ce modèle, eh bien on voit que ce qui va se passer, ici vous avez en bleu ce qui se passe quand il n'y a pas de robustification, puis ensuite ce qui se passe quand vous avez des robustifications avec des niveaux de probabilité de plus en plus élevés pour satisfaire la contrainte. Et vous voyez ici que en fait on va remplacer une partie des importations par de l'énergie produite localement, et on tend à mieux répartir les importations entre les différents fournisseurs. Donc en fait, on rentre de la diversité dans le modèle et on va le robustifier de cette façon-là. Et on peut voir l'évolution du coût qui est quasiment linéaire, c'est pas étonnant puisque le modèle est lui-même linéaire, donc du coût additionnel obtenu au fur et à mesure qu'on augmente la probabilité de satisfaire la contrainte. En bref, pour résumer ce que j'ai dit dans cet espace de temps, dans un contexte d'aide à la décision, on peut construire un modèle réduit par émulation statistique de modèles numériques qui sont éventuellement couplés, traiter le modèle réduit, qui est un métamodèle, par les techniques de contrôle stochastique ou des techniques de viabilité. On peut aussi formuler un modèle bottom-up, en restant dans le cadre de la programmation linéaire, et ça c'est important parce que c'est vraiment le seul cas dans lequel on peut avoir numériquement des calculs de très grande dimension, et appliquer les techniques d'optimisation robuste et de programmation stochastique, avec éventuellement l'usage de règles de décision affines pour tenir compte des adaptations sur plusieurs périodes. Voici, c'était... Merci.
Tu peux dire deux mots du modèle de climat simplifié que tu as utilisé?
Ah oui, dans les applications que j'ai montrées, il n'y a pas d'utilisation du tout. Mais le modèle de climat qu'on utilise, en fait, nous, c'est pas nous, c'est le modèle qui est utilisé par l'intermédiaire de Open University, c'est notre collègue Neil Edwards. Et ça s'appelait avant C. Goldstein, et puis c'est devenu le modèle génie. Et c'est un modèle où il y a plusieurs universités britanniques qui contribuent à ce modèle. Vous devez connaître.
C'est un modèle de complexité
intermédiaire. C'est ça, hein, voilà.
Par les Anglais.
Voilà, donc c'est ce modèle-là qui a pour nous l'avantage, comme on a fait des couplages de ce modèle avec des modèles de décision, l'avantage c'est que les simulations se font quand même en une vingtaine de minutes. Voilà. Et on peut ainsi avoir des réponses assez rapides.
En général, on simplifie l'atmosphère parce que ça coûte quand même très cher, les modèles les plus complexes. Mais c'est quand même des modèles à trois dimensions, mais on
simplifie
la dimension atmosphère. Mais j'ai mis couple avec différentes composantes du système, atmosphère, océan,
voilà.
Continent. Mais simplifie. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Moi, j'ai toujours la question, toujours un peu la même question, c'est sur les techniques d'évaluation de ces modèles. Typiquement, par exemple, dans les modèles de climat, on fait ce qu'on appelle des prévisions rétrospectives. J'aimerais bien voir un jour des prévisions rétrospectives faites avec des modèles de integrated assessment, pour savoir si c'est possible. Quelles sont les méthodes d'évaluation qui sont utilisées pour valider un certain nombre d'hypothèses. Notamment, par exemple, dans le cadre du métamodèle, l'émulateur il est construit à partir d'un nombre, en général, limité de simulations faites avec le modèle, intégrant toute sa complexité. Typiquement, dans le cadre des émulateurs climatiques que je connais, c'est quelques dizaines, voire quelques centaines de simulations. Quand on regarde le nombre d'années simulées et qu'on regarde la taille de l'échantillon et ce qu'il faudrait pour calculer, pour estimer correctement les matrices de covariance, c'est notoirement insuffisant. Donc voilà, c'est un peu ces questions-là sur la robustesse des émulateurs et les méthodes d'évaluation qui sont utilisées pour valider un petit peu la construction de ces modèles.
Oui, alors je pense que je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre en disant on a des études rétroactives nous permettant de dire regardez, nos modèles avaient bien prévu ceci, cela. Je n'en connais pas beaucoup, mais. Je peux dire peut-être, oui, dans un exemple, dans les années 80, j'ai dirigé une thèse à Montréal de quelqu'un qui s'appelle M. Georges Sacour, qui est maintenant professeur à HEC Montréal, qui a une chaire sur la théorie des jeux. Et il avait appliqué un modèle de théorie des jeux à l'époque à l'analyse du marché européen du gaz. Et malheureusement, sa thèse, qui était une très belle thèse, quand elle l'a soumis à un journal, s'est perdue. Finalement, le papier ne s'est pas publié tout de suite. Et 15 ans après, on a eu l'occasion de revenir sur le problème et de regarder comment le marché du gaz européen avait évolué. Et dans ce cas-là, on avait vu que ça va évoluer à peu près dans le sens qui était prédit par le modèle à l'époque européen du marché du gaz. Donc là, on dit. Mais moi, je dirais que c'est plus un coup de chance qu'une preuve de. Parce qu'en fait, ces modèles-là ne sont pas. Je ne pense pas qu'ils sont des modèles prédictifs. C'est des modèles. En fait, moi, je pense que le but de ces modèles d'évaluation intégrée, c'est vraiment de savoir si on peut s'en tirer. C'est-à-dire que. La question, par exemple, pour les modèles énergétiques, c'est vraiment de savoir, y a-t-il une solution ? Y a-t-il une solution qui nous permet d'atteindre un niveau d'émission compatible avec un forçage de 3,5 watts par mètre carré ? C'est ça la question posée. Savoir si c'est vraiment ça qui va se passer, c'est bon, une autre paire de manches. Mais on n'est pas en train d'essayer de prévoir vraiment ce qui va se passer dans un système. On essaie de savoir si c'est possible. Si effectivement il y a une politique qui est possible et quel coût elle aurait. Voilà.
En même temps, dans le dernier exemple, le choix des DK il est critique parce que suivant la valeur des DK, imaginons qu'on laisse très très peu de liberté au corridor, on aura très peu de chances de s'adapter parce qu'on aura très peu de liberté.
Ah ben oui, mais ce qui se passe, c'est que vous pouvez, justement, on peut faire varier ces DK ici, si vous voulez, vous allez maintenant pouvoir les faire varier, vous allez pouvoir dire. Certains corridors peuvent être complètement obstrués. Mais ça veut dire que vous allez pouvoir rentrer dans votre modèle quelque chose qui est très important. Tout le monde à l'heure actuelle discute de la dépendance de l'Europe par rapport à la Russie concernant le gaz. L'Europe, on a vu sur la flèche, elle est très très importante, celle qui vient de Russie. La question, c'est de savoir, quelle est la valeur de déca que vous allez mettre? Ça veut dire 1, ça veut dire que ça va rester disponible 100% tout le temps, ou bien est-ce que ça risque d'être coupé à 50%, ou voilà. Et c'est ça qui est en fait je pense un avantage, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans le modèle une indication sur l'idée que vous faites de l'incertitude concernant ce canal. Mais non, ce qui est important aussi dans ces approches pour l'instant, c'est que les approches robustes, du moins pas les approches de programmation stochastique, c'est que elles sont indépendantes des probabilités. Et ça, c'est très important parce que les probabilités, comme on les a vues ce matin, on avait parlé aussi tout à l'heure, elles sont souvent très difficiles à estimer. Et ces méthodes-là, par exemple, peuvent aussi s'étendre au cas où vous allez avoir un modèle effectivement stochastique, mais avec ce qu'on appelle des distributions de probabilités ambiguës. Et ça, c'est quelque chose encore d'un petit peu différent de ce qu'on a vu ce matin, la séparation entre probabilité naturelle, si vous voulez, et probabilité bayésienne. Vous pouvez avoir maintenant des probabilités ambiguës, c'est-à-dire que vous avez une distribution de probabilité, mais vous n'avez pas exactement laquelle. C'est fuzzy, ça. C'est du genre de fuzzy, mais vous restez dans le calcul des probabilités, mais vous faites de la robustesse sur les probabilités. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire que la décision que vous recommandez à partir d'un modèle ne soit pas trop influencée par la recherche d'un optimum qui est obtenu à partir des conditions particulières des paramètres. Vous allez proposer une politique qui, en fait, est bonne pour beaucoup de scénarios et une large étendue des valeurs des paramètres. Et il semble qu'effectivement, dans le domaine de l'adaptation, on soit dans un cas de figure. Il faut éviter de se retrouver dans une situation où on va exploiter éventuellement une valeur qu'on suppose pour un paramètre, mais qui n'est pas du tout certaine. Oui.